Voici Dan Bigras.
Alors aujourd'hui débute la semaine québécoise des marchés publics. Je vous pose la question, est-ce que vous prenez la peine de manger local? Alors, on se rappelle, notre premier ministre, M. Legault, avait parlé d'acheter local. Ça, c'était suite au fait qu'on avait beaucoup de misère à trouver des masques et de l'équipement pour protéger notre personnel soignant et par la suite, nous. Alors, on s'est aperçu qu'on pourrait les fabriquer, les maudites affaires. Mais de là avait découlé toute une pensée d'acheter local. Là, c'est pas juste ça, là. Là, je parle de manger local. Alors, est-ce que vous prenez la peine de manger local? J'aimerais beaucoup que vous m'appeliez au 514-790-9850. Ou si vous êtes hors de la région de Montréal, au 1-866, donc sans frais, 790-9850. Et tout de suite, je reçois Mme Julie Aubé, qui est porte-parole de la Semaine québécoise des marchés publics et nutritionniste et autrice. Bonjour Mme Aubé.
Bonjour.
Bonjour. Alors, vous lancez un appel à tous les consommateurs québécois, là?
Absolument. La Semaine québécoise des marchés publics, c'est la 12e édition cette année. Puis l'idée, c'est vraiment de créer une occasion de parler de nos marchés, de les célébrer, de souligner leur caractère festif, gourmand, rassembleur et nourricier aussi.
Ça a l'air très bon, dit comme ça. c'est très attirant. Je crois que c'est vraiment dans les habitudes qu'il va falloir prendre. Nos habitudes sont dures à changer parce qu'une habitude, justement, par définition, ben c'est rassurant. On fait toujours la même chose. Et là, on s'aperçoit qu'il faut vraiment faire autre chose. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent « Oui, mais c'est un peu plus cher.
» Il y a beaucoup de choses dans la question. Déjà, en commençant par le fait que c'est vrai qu'une habitude, c'est difficile à changer. En nutrition, on le sait bien. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. En fait, on en rencontre plein de défis. L'argent, ça peut en être un, mais le manque de temps aussi, le manque d'énergie, le manque d'idées pour cuisiner les produits locaux. Donc, des défis, il y en a. Oui, et le temps, effectivement, tout le monde va avoir ses exemples à cet égard-là. Donc, l'idée, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de défis. L'idée, c'est de partir de ces défis-là puis de trouver des solutions, de trouver des outils parce que ça existe. Et puis, c'est justement cette année avec le thème de qu'on s'est donné pour la 12e édition de la Semaine québécoise des marchés publics qui s'appelle « Mangeons local 12 mois par année ». Dans le fond, avec ce thème-là, on s'est donné comme mission d'outiller puis d'inspirer les gens à s'approvisionner en produits frais du marché pour en manger maintenant quand c'est la saison d'abondance, mais aussi pour en faire provision, pour en avoir pour plus tard, en avoir des petites réserves d'aliments locaux qui vont nous faire tellement plaisir en plein hiver quand ce sera moins l'abondance.
Oui. Oui, on peut fabriquer des pots là, on peut s'en mettre de côté. Est-ce que ça aide du côté produits chimiques? Le pharmacien que j'écoute souvent, que j'aime beaucoup, dit oui, mais des produits chimiques, c'est des produits naturels mis ensemble. Auquel, ben, est-ce qu'aussi je vais être obligé de répliquer, oui, ils sont mis ensemble de façon pas très naturelle, par exemple. Alors donc, on sait qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on rajoute des produits chimiques aux aliments, mais une, c'est pour leur garder peut-être une couleur plus appétissante plus longtemps. Alors le fait qu'on a moins de transport, on commande pas nos oranges d'Indonésie, là. donc, à ce moment-là, il y a peut-être moins d'additifs. Est-ce que manger local, ça veut dire qu'on va manger un petit peu moins chimique?
Mais je pense que dans tous les cas, ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'avec l'idée de la proximité en alimentation, quand on va, par exemple, au marché public à la rencontre des gens qui ont produit nos aliments, on a une transparence, une traçabilité par le fait qu'on peut poser nos questions aux agriculteurs puis aux artisans gourmands, puis à ce moment-là, être capable de faire des choix qui vont représenter ce que nous, on veut comme alimentation. Si on n'en veut pas du tout de produits chimiques, on va avoir une réponse. Si on aime la réponse qu'on entend, ça peut être pas du tout, mais ça peut être tout ce qui est une agriculture raisonnée, donc un usage de produits pour certaines raisons, mais pas dans tous les cas ou pas d'emblée. Mais ce qui est intéressant de retenir, c'est que justement, dans une très grande surface, mais souvent, il y a tellement un lien ou une distance entre nous qui consommons l'aliment et son origine qu'on ne sait pas tant que ça comment il a été produit, d'où il provient. Puis les marchés publics, comme toutes les autres façons de s'approvisionner en circuit de proximité, ça nous donne un accès direct à une source d'information transparente. Et puis ça, c'est précieux. Ça donne beaucoup de sens aux aliments qu'on met dans notre assiette aussi. Puis quand on parle d'environnement, un autre d'environnement relié à l'alimentation, un autre point qui est intéressant à aborder, c'est celui du gaspillage alimentaire. Et quand on donne du sens à nos aliments, justement, parce qu'on associe des histoires, des visages, des paysages, des sourires aux denrées qu'on met dans notre assiette, mais elles prennent tellement de sens à nos yeux qu'on redouble de créativité pour ne pas gaspiller les aliments. Puis ça, c'est certainement que ça a un impact aussi sur l'environnement.
Absolument. L'environnement est notre santé à nous. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de cas de cancer qui me semblent être reliés à une consommation excessive tout le temps, soit de pollution ou de produits chimiques qu'on met sur notre peau, qu'on mange et tout ça. Donc, si on peut poser plus de questions, on est content. Par exemple, la première que je vous pose tout de suite, les pesticides, on parle de Roundup ici, là, développé par Monsanto, qui a été vendu à Bayer, on le sait. Mais ça, ils ont perdu des causes importantes comme causes directes de suicide qui ont été prouvées, de cancer qui ont été... Ouh, quel beau lapsus, un psychanalyste serait intéressé par ça. De
oui,
cancer.
Aussi, si je peux me permettre, oui. Quand on parle de lien entre l'alimentation de proximité et notre santé, mais il y a d'autres, il y a les produits chimiques, c'en est un, on vient de le mentionner, mais il y a aussi le côté de la fraîcheur. Les produits ont moins voyagé, on s'en approvisionne directement de ceux qui les ont cultivés. Ils n'ont pas été dans des entrepôts très, très longtemps. Donc, maximum de valeur nutritive reliée à une fraîcheur imbattable. Mais il y a plus encore, comme nutritionniste, on parle beaucoup aussi de l'importance de la variété, de la diversité. Donc, dans les marchés publics, on a accès à vraiment une ribambelle de variétés de fruits, de légumes et d'autres denrées aussi. Souvent qui peuvent nous donner accès pas juste à une ou deux variétés, disons, de tomates ou d'aubergines qu'on retrouve dans les grandes surfaces, mais à beaucoup plus de variétés patrimoniales, ancestrales, régionales, qui ajoutent de la diversité, du plaisir à notre alimentation. Et finalement, j'aime toujours parler aussi d'un point qui est super important pour moi, qui est que quand on s'approvisionne au marché public directement des fermiers, ce qu'on ramène à la maison, c'est beaucoup des aliments de base qui nous incite à cuisiner, donc à transformer nous-mêmes à la maison nos denrées. Ça ne veut pas dire que c'est obligé d'être compliqué cuisiner. Ça peut être une omelette, un bon sandwich, ça peut être tout simple.
Ça peut être très simple, je suis un gars.
Et voilà.
Mais
et
ça donc, se fait quand même.
Des produits plus industrialisés ou hyper transformés oui, par voilà. L'industrie alimentaire. Donc ça aussi, ça a un impact important sur nos saines habitudes de vie, sans compter la transmission culinaire quand on cuisine, par exemple, avec la famille.
Oui, oui, je comprends très bien. Je vais vous garder avec moi. J'ai tendance à esclavagiser mes invités. J'aimerais que, parce que là, on va prendre des appels du public, que je trouve toujours très intéressant, mais j'aimerais que vous répondiez. Quand vous vous sentez concerné, répondez à ma place, ça va me faire plaisir.
avec plaisir.
Oh, non, c'est en plein ce que je veux. C'est vraiment une demande spéciale que je vous fais. On a un premier appel. Marie. Salut, Marie.
Salut, Dan.
Bonjour.
Wow, je suis tellement contente de te parler, toi. Je peux juste faire un tout petit aparté avant.
Mon Dieu, t'es bien de bonne humeur.
Oh, moi, je suis toujours de bonne humeur.
Ah, ça, c'est fantastique, ça.
Puis on a des vécus similaires et dans une autre vie, dans les années 80, alors d'une grande recherche spirituelle, j'avais lu une phrase qui disait « Plus grand le pécheur, plus grand le saint. »
Okay.
Puis je trouve que ça te décrit et ça me décrit tellement bien.
Ah, c'est gentil, mais la question, c'est manger local. Vous me faites très plaisir.
Oui,
mais,
oui, oui, je mange local.
Ah, c'est ça ma question.
Je mange local à plein. Oui. Je congèle, j'empote. Je suis même insultée quand je vois, quand on est en pleine saison, là, puis que nos agriculteurs se battent bec et ongles pour vendre leurs produits dans le petit kiosque sur le bord du chemin. Là.
Oui.
Puis ils font exprès, on dirait, pour couper le prix. Tu sais, je sais pas moi, mettons que le blé d'Inde coûte 5$ la douzaine. Ben là, les grandes chaînes, ils vont les mettre à 2$.
Ben oui, parce qu'ils ont un pouvoir d'achat qui est plus grand. Puis effectivement, ça crée un... merci beaucoup, Marie. Madame Aubé, c'est effectivement, quand l'industrie qui peut acheter à la tonne et à la centaine de tonnes, à un moment donné, il peut casser le prix des agriculteurs d'ici comme il veut. Là. Et ça s'apparente à une concurrence que je trouve pas tout à fait loyale à un moment donné, là.
Ouais, c'est sûr que c'est complexe, le prix des aliments. Puis c'est certain aussi que quand une grande bannière décide de mettre un produit en rabais, par exemple, mais ça, il va compenser avec d'autres produits qui sont à prix régulier. Donc, oui. C'est certain que ça peut être un outil qu'ils utilisent. Mais par rapport à ça, ce qui est intéressant de réaliser, en fait, c'est que c'est les saisons. Le mot-clé, c'est le mot « saison ». Parce que quand le produit est en saison, qu'il est abondant, mais souvent, c'est le moment où on va avoir un prix intéressant, peu importe que ce soit dans une grande surface ou au marché public ou dans un autre circuit court. Donc, des fois, quand on entend, puis vous l'évoquez en introduction, des fois, l'alimentation locale, ça coûte cher, mais je pense que quand on décide de miser sur les produits de saison, on s'en sort assez bien d'un point de vue prix, sans compter tout ce qu'on disait tout à l'heure, la fraîcheur, la diversité, l'avantage de rencontrer les personnes qui nous nourrissent. Donc, on est vraiment gagnant avec la proximité.
Très bien. Marcella, bonjour Marcella.
Salut Dan, on s'est déjà parlé auparavant au sujet de si on quitterait la ville versus aller ailleurs à la campagne.
Oui, donc, oui, moi, je me souviens. Toi, t'es plus au nord.
Enseignant.
Là.
Oui, 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 moi je suis à Mississini, une réserve autochtone Cree.
Oui.
Je suis à une heure au nord de Chibougamau, donc c'est Chibougamau la ville la plus proche. Moi, j'aime bien, j'ai vécu toute ma vie à Montréal, donc les marchés, ça me manque beaucoup parce qu'on n'en a pas ici. Puis s'alimenter local au nord, c'est difficile. C'est sûr qu'on n'a pas toute la variété qu'on peut trouver au sud.
Mais donc, non, il faut la livrer. Ça, on en a parlé quand on parlait des Autochtones, par exemple, qui, pour eux, tout est plus cher dans le Nord. C'est certain
que
la même nourriture qu'on trouve ici, il faut la livrer par camion et par avion. Puis ces transports-là sont pas gratuits, ça monte le prix des aliments, c'est clair.
Ah non, évidemment. Moi, je suis déjà allée à Saluit. Je suis déjà allée à Saluit complètement au nord du Québec. Puis c'est hallucinant. On veut que les gens mangent santé, mais quand deux pommes coûte 6 $, c'est ridicule. Là. C'est sûr que nous, ici, à Mississini ou même à Chibougamau, on peut se procurer des aliments quand même à bon prix, quasiment presque le même prix qu'à Montréal, dépendamment de ce que c'est. Mais c'est sûr que, en tout cas, moi, j'essaie, quand je fais mon épicerie, soit ici à la réserve ou à Chibougamau, si je vois des aliments étiquetés aliments du Québec, c'est sûr que je tente à me procurer, même si c'est peut-être un petit peu plus cher, mais j'aime mieux encourager les gens d'ici. Mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Surtout si on veut la fraîcheur, oublie ça, la fraîcheur, ça, les aliments frais, c'est pas vraiment.
Ben non, mais plus on est obligé de les promener, les aliments, moins ils sont frais. C'est un peu normal. J'ai juste une dernière petite question à vous poser rapidement. Vous me dites que vous êtes enseignante, c'est ça?
Oui, j'enseigne un programme d'art plastique, une concentration d'art plastique auprès des jeunes Cree ici.
Okay. Mais c'est très beau, sauf que où vous travaillez, est-ce que vous avez une prime d'éloignement dans votre salaire?
Oui, j'en ai. Donc, c'est sûr que pour
vous
moi...
Vous balancer un petit peu les choses quand même. Est-ce que c'est
ça,
suffisamment?
Exactement.
C'est sûr suffisant que pour balancer?
Oui, ça aide beaucoup. Mais
ça rend la recherche d'aliments locaux difficile, je comprends. Merci.
C'est ça, exactement. Puis je voulais juste te dire aussi, j'ai parlé avec ta recherchiste, elle me demandait avec quelle station j'écoutais la radio, puis j'ai dit, ben j'écoute à partir de l'application que j'écoute. Puis ce serait bien de le mentionner de temps en temps au Nord du Québec, parce qu'on s'arrête toujours au Saguenay ou à la Abitibi-Témiscamingue, mais on s'écoute ici au Nord.
Ah, mais oui, mais c'est vrai, je l'ai acheté l'application dernièrement. Je le mentionnerai. Merci beaucoup, Marcella.
Merci, Dan. Merci pour ta job. Ton émission est vraiment rafraîchissante.
Merci beaucoup. On fait tout ce qu'on peut. Merci beaucoup. Julie Aubé qui est avec nous. Julie, je vous garde encore. On va prendre une petite pause. On n'a pas le choix. Mais je vous garde. On va discuter
si
avec monsieur.
Je peux vous donner une petite information express avant la pause. On
Allez-y.
Parlait de territoire. C'est vrai qu'on a un grand territoire au Québec, mais aujourd'hui, on est rendu en 2020 à plus de 130 marchés publics répartis partout sur le territoire, autant dans les villes que dans les campagnes. Donc, c'est intéressant de voir que ce nombre-là ne cesse d'augmenter.
Je vais y aller vite, là, mon technicien de son va m'arracher la tête. Juste à Montréal, c'est ça. J'enlève le mot marché devant, mais il va devant chaque nom que je donne. Biolocal à Verdun, Jean Briand, Hansic Cartierville. Marché d'été à Hansic, Cartierville, Jean Talon, Maisonneuve, Angus, Métro Mont-Royal, Atwater, Métro Papineau, Corée-Saint-Louis, Place Jacques-Cartier, La Chine, Fermier Prince Arthur, Des Éclusiers, Solidaire, Frontenac, Métro Cadillac, Square Phillips, Fermier du Métro Laurier, Square Victoria et Marché Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-Bellevue, c'est juste avant l'île Perrault. Alors, juste pour Montréal, si vous manquez d'endroit pour y aller, vous allez en trouver un facilement. On vous revient tout de suite après la pause.
Approfondir le sujet de l'heure jusqu'à midi. Vous écoutez Dan Bigra.
Alors, je vous rappelle que je suis avec Julie Aubé, qui est porte-parole de la Semaine québécoise des marchés publics et nutritionniste. Et donc, je vais la garder avec nous. Et je vais accueillir Ryan Worms, directeur des programmes en alimentation chez Équiterre. Si vous avez bien écouté son nom, vous allez peut-être être surpris un peu de son accent. Bonjour, M. Worms.
Bonjour, M. Bigra.
Oui, vous n'êtes pas anglophone du tout, du tout.
Non, c'est un prénom et un nom pour être caméléon quand je vais du côté anglophone de notre Canada.
Okay, c'est très bien. Votre accent français un peu, est-ce qu'il est alsacien?
Est-ce qu'il est alsacien? Oui, effectivement, j'ai une partie de ma famille qui vient de l'Alsace et le nom de famille, malgré qu'il sonne anglophone, est germanique. D'origine, c'est une petite ville en Allemagne.
Ben oui, c'est collé entre l'Allemagne et la France. En fait, en France, collé sur l'Allemagne. Donc, vous êtes directeur des programmes en alimentation chez Équiterre. Je trouve ça très, très important. Nommez-moi les programmes d'Équiterre qui misent précisément sur le manger local.
Ben, écoutez, il y en a plusieurs. D'abord, peut-être faire le lien pour nous. Quand on parle d'alimentation, on parle aussi d'agriculture, évidemment.
Bien sûr.
Comme vous le savez peut-être, on a géré pendant... des années le réseau des fermiers de famille qui aujourd'hui est passé aux mains des producteurs. Mais donc l'agriculture à petite échelle, respectueuse de l'environnement et qui sert à nourrir la communauté locale, c'est vraiment un principe fondateur pour Équiterre. Et sur l'alimentation, bah, c'est de favoriser, notamment dans nos institutions, l'approvisionnement local. Donc quand on parle d'institutions, on parle des centres hospitaliers, on parle oui. du milieu scolaire, mais aussi de l'entreprise privée. Donc comment assurer dans les services alimentaires une plus grande part de produits qui viennent de chez nous et si possible aussi des produits qui soient biologiques. Donc dans nos programmes aujourd'hui, il y a un travail avec les écoles enracinées. C'est une proposition pour les écoles de faire un financement pour leur projet, mais au lieu de vendre des tablettes de chocolat, ils vont vendre des paniers de légumes biologiques produits proches de chez eux. Et on a aussi tout un grand programme, comme je vous disais, avec des institutions, notamment les centres hospitaliers comme le CHUM ou alors l'hôpital Sainte-Justine.
Ah, mais on pourrait encourager ça partout. Je dis, au lieu d'écouter les chanteurs américains, écoutez celui-ci. Je m'excuse, je n'ai pas pu m'empêcher de prêcher pour ma paroisse, mais puis c'est complètement hors sujet, mais on fait souvent les farces aussi que les hôpitaux, c'est pas mangeable, c'est pire que la prison, mais c'est pas tout à fait vrai, là. Vous avez conclu une entente, en fait, c'est même eux qui vous ont approché, le Centre hospitalier universitaire de Montréal, le CHUM, inspiré oui. en partie par la démarche du CHU, Sainte-Justine. Vous approchez en 2019 pour entreprendre le virage de s'approvisionner en fruits et légumes bio et locaux. Donc, c'est pas juste locaux, c'est bio, là.
Oui, il y a bio et
il y a deux locaux. Étiquettes.
Deux étiquettes, mais effectivement, c'était aussi un souhait des responsables des services alimentaires de ces institutions hospitalières d'assurer une plus grande provenance d'aliments locaux, mais aussi biologiques. Pourquoi ? Parce que on se rend compte évidemment que l'alimentation, puis vous allez en parler avec votre autre invité, a une incidence sur notre santé. Quand on est dans un centre hospitalier, évidemment, c'est qu'on a déjà un problème de santé. Donc, assurer une bonne alimentation pour pouvoir combattre la maladie ou le problème de santé auquel
oui,
on
oui,
est,
oui.
C'est important. Et si je prends l'exemple de Sainte-Justine, on a aujourd'hui 55% des aliments qui sont consommés au service alimentaire qui proviennent de notre province, donc d'aliments locaux, et 2% qui sont des aliments biologiques. Donc c'est quand même important, c'est en croissance, il y a une grande sensibilité, je vous dirais, du personnel des services alimentaires des hôpitaux, mais aussi du personnel en général des hôpitaux. On a notamment organiser des visites dans les fermes qui approvisionnent ces hôpitaux. Et là aussi, le contact humain entre le personnel de ces hôpitaux et les producteurs, bah, ça renforce aussi le lien et l'importance qu'on doit donner à nos aliments et à la provenance de nos aliments.
Je comprends très bien. Depuis tout à l'heure, on discute un peu plus d'organismes, d'écoles, d'hôpitaux qui font affaire avec vous. C'est très, très, très bien. Je veux parler de l'acheteur seul. Parce que on limite souvent notre achat au prix sur l'étiquette. C'est moins cher, on le prend plutôt que celui à côté qui est un petit peu plus cher. Ceux qui ont les moyens devraient peut-être se forcer un peu, mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Il leur manque d'argent pour survivre. Puis là, on le sait, avec la COVID, tellement de gens ont perdu leur job. Ça reste quand même une question. Je suis de votre côté, trompez-vous pas, mais il faut questionner pour mieux comprendre. Je veux qu'on sorte de cette équation-là le plus possible, mais on va parler tout de suite à ce moment-là. Monsieur Worms, répondez avec moi à nos invités. On a Raymond qui, lui, n'est pas très content du prix qu'il paye. Bonjour, Monsieur Raymond.
Bonjour, M. Dan, ça va bien?
Ça va très bien, vous?
Oui, ça va bien. Écoute, moi, je suis un gars qui demandait à ma conjointe, là, parce que c'est elle qui fait les achats, moi, je suis plutôt occupé à travailler plus. Elle est à la maison, elle travaille à la maison.
Déplacez-vous un peu, votre son est pas, il passe pas très bien, là. Déplacez-vous un peu, parce que de temps en temps, ça revient clair.
OK, c'est bon, comme ça?
Non, on va y arriver.
Bon, on est bon.
Je vous comprends pas. Je suis désolé. Essayez avec ma recherchiste de refaire un appel puis d'éclaircir votre ligne. Puis on va vous reprendre. En attendant, on va parler à Martin.
Bonjour, oui, Martin. Salut, Dan.
Salut, salut.
Ça va bien?
Oui, oh, ça va très bien.
Ah oui. Bon, mais moi, j'appelle, c'est je veux amener une autre solution aux gens aussi pour manger local. OK, moi, j'étais tanné de manger des légumes, là, tu sais, contaminés, justement. Tu sais, quand t'es rendu qu'il y a de la salmonelle dans la laitue romaine, il y a un problème à quelque part, là.
Oui.
Tu sais? Moi, j'ai créé une entreprise, OK, qui donne la formation aux gens pour les aider à faire pousser leurs légumes toute l'année dans la maison. OK? Okay. Moi, j'ai réussi, j'avais l'expérience en hydroponie. Puis là, j'ai amené ça à plusieurs personnes. Puis là, de plus en plus, ça a fait son chemin. OK? Fait que là, ce qui arrive, c'est que tu peux être autonome. Peut-être, ben, pas une autonomie complète. On s'entend, là, il y a des légumes qu'on peut pas faire pousser dans une maison, c'est certain.
C'est comme nos enfants, une vie autonome, pas tout à fait non plus, c'est correct, ça.
Ben oui. Mais tu sais, des tomates, des cocons, les laitues, toutes les fines herbes, ça pousse très bien dans une maison. Ça peut aussi bien pousser devant une fenêtre ou en rajoutant des lumières, mais il y a vraiment une option pour tout le monde là, là-dedans. L'hydroponie, là, ça amène des options tellement puissantes aujourd'hui que...
Je comprends. Ça prend quand même un minimum de connaissances. Je vais vous donner un exemple stupide. Le mien. Une année, j'ai fait pousser trop de tomates. Mais ça, t'en donnes à tes chums, puis ils te ramènent de la sauce tomate, puis du ketchup, puis tout le monde est content, on a du fun. L'année d'après, j'ai fait pousser trop de cocombes. Ça, t'es manges en maudit tes maudits cocombes jusqu'à temps que tu t'étouffes. Tu peux rien faire avec ça. Donc, faut pas planter trop de cocombes. Il y a des choses qu'il faut savoir quand même quand on veut faire pousser chez nous.
Oui, c'est sûr, mais il y a quand même une facilité. Tu sais, je me dis pourquoi, justement, dans le nord du Québec, ils sont pas organisés juste avec des locales. Moi, j'ai amené ça dans des écoles. OK, l'idée, c'était d'apprendre aux écoles, aux élèves, la culture. OK, donc, amener des projets en science, puis leur dire, regardez, jeunes, on va vous apprendre à faire pousser des choses. OK, vous allez apprendre des techniques, tu sais, pour ramener à la source, finalement. Tu sais, le savoir là, de cultiver nos propres choses, je pense que ça fait partie là, d'une indication qui a été perdue complètement. Donc, moi, j'essaie de ramener ça au complet, tu sais. Pour ça, j'ai appelé ça vert stratège, dans le but de, tu sais, on revient à la source, on trouve des stratégies, comment se nourrir soi-même. Puis c'est surtout aussi pour le coût, hein. Comme tu disais tantôt, là, les légumes, là, un prix exorbitant. Tu sais, un poivron à 12 $ au Nunavut, c'est pas vraiment normal non plus, hein.
Non, mais c'est plus difficile d'en faire pousser là-bas.
Si t'arrives à les faire pousser, c'est sûr.
Je comprends. Merci beaucoup. Je trouve ça intéressant. Je vais en parler tout de suite à M. Worms. Est-ce qu'on devrait faire... Et puis, je pose la question aussi à Mme Aubé, qui est toujours avec nous, qui est très discrète, mais qui... Gênez-vous pas pour...
Je suis là.
OK. Gênez-vous pas pour intervenir. Est-ce que... Parce que ça rejoint ma question souvent. On se limite un peu à... Bon, lui, il est 4 cents de moins, fait que je prendrai pas l'aliment bio ou l'aliment local parce que cette différence. Je veux absolument pas critiquer les gens là, qui vivent là tout juste. Il y en a qui n'ont pas le choix. Mais tous ceux qui peuvent, et puis il n'y a pas besoin d'être millionnaire pour le faire. Là, c'est pas si cher que ça. Ça rejoint un peu ce que monsieur dit. Est-ce qu'on devrait pas faire un peu plus de formation? Informer les gens sur toutes les situations. Évidemment, faire pousser chez eux, c'est pas pour tout le monde, mais ça, c'est pour quelques-uns. Mm-hmm. C'est à force de faire plusieurs groupes de quelques-uns qu'on fait une société, là.
Ben absolument. Puis faire pousser chez soi, c'est pas obligé d'être un projet immense non plus. Hein. Ça peut être quelques bacs de fines herbes sur un balcon, ça peut être un plant de tomates dans le coin d'une cour. Puis c'est déjà
il y a déjà plusieurs qui font pousser un plant de potes, il me semble, pourrait se forcer une coupe de tomates.
Mais ce que j'allais dire, c'est que juste le fait de le faire à petite échelle, à la mesure de nos capacités et de l'espace qu'on a, ça nous fait réaliser quelque chose de super important qui est le temps, l'effort et les soins que ça prend pour produire des aliments. Puis ça, je pense que ça change tout de suite notre perception du prix. Des fois, on peut avoir l'impression, quand on voit seulement des prix sur une étiquette, « Ah, c'est cher, ah, c'est pas cher ». Mais quand on réalise tout le travail qu'il y a derrière, toutes les ressources, tout le temps que ça prend, beau temps, mauvais temps, les agriculteurs sont dehors en train de donner leur journée depuis tellement de semaines, depuis tellement de mois pour qu'on puisse avoir accès à des aliments de qualité et de proximité. Je pense que c'est tout le bienfait de la reconnexion avec l'agriculture. On parlait d'éducation, je pense que c'est super important d'exposer les enfants à l'agriculture, puis ça peut se faire autant sur notre balcon, dans notre cour, qu'en allant visiter des fermes, des marchés.
Moi, je crois qu'aussi, on pourrait compléter nos calculs parce que, admettons, avec tout le transport que ça nous coûte de faire venir nos fruits et légumes de Californie, de Nouvelle-Zélande ou d'un peu n'importe où, ils viennent de tellement loin que, d'après moi, on sauve en pollution, on sauve en frais de décontamination de la planète. Il doit y avoir d'autres frais. Je sais que chez Équiterre, vous travaillez fortement sur ces choses-là, vous en parlez, mais c'est une question que je vais vous poser à tous les deux de retour après la pause.
Connaître l'impact dans votre vie. Dans votre vie. Au réseau Cogeco. Vous écoutez Dan Pigra.
Alors, j'avais posé la question à mes invités, Julie Aubé, qui est porte-parole de la Semaine québécoise des marchés publics, autrice et nutritionniste, et M. Ryan Worms, qui est directeur des programmes en alimentation chez Équiterre. C'est parce qu'on essaye de d'informer les gens. Je trouve qu'il faudrait le faire un peu plus sur les coûts totaux. De ce dont on parle. Alors, s'alimenter local, ça semble un petit peu plus cher sur l'étiquette, mais je vous pose la question à tous les deux. Est-ce qu'on se trouve pas à sauver, là, j'improvise, sur les coûts de pollution, sur les coûts de dégâts par transport? Il y a bien des coûts qui sont reliés à ça, et peut-être qu'on économise ailleurs aussi si on fait ça.
Vous avez tout à fait raison, Monsieur Pigra. Malheureusement, aujourd'hui, quand on met une étiquette sur nos aliments, on ne prend pas en compte tout ce qui a trait à l'environnement, tout ce qui a trait également à la pollution par le transport ou encore au dynamisme économique de nos régions. Je vous donne un exemple concret. Hier, j'ai fait une tarte au bleuet avec mes enfants. Donc, on est allé acheter des bleuets, hein, c'est la saison. Et on se rend compte que deux petites barquettes de bleuets en provenance des États-Unis, c'était $5. Mmh. Et juste à côté, il y avait une seule petite barquette d'ici qui coûtait $4.25, $4.50. Donc on a fait une plus petite tarte, évidemment, mais tout de même, le bleuet local coûtait 60% plus cher. Donc pourquoi? D'une part, c'est parce que aux États-Unis, il n'y a pas une réglementation aussi stricte qu'ici au Québec sur les pesticides, sur les modes de production. Et enfin, il n'y a pas de taxation sur l'impact environnemental de ces productions qui viennent d'ailleurs. Donc ça, c'est une solution qui devrait être mise en place probablement par le gouvernement. Comment
Mais
faire?
Déjà là, j'ai des petits frissons qui me grimpent un peu sur les bras. Là, j'ai... Vous parlez qu'aux États-Unis, ils n'ont pas la même réglementation sur les pesticides. Moi, je vais le dire le mot, mais j'ai une allergie profonde au mot Roundup. Ça se peut que j'éternue tout seul en le disant.
Je pense que vous n'êtes pas tout seul. Il y a plusieurs milliers de personnes qui ont plus que des allergies, malheureusement, et qui d'ailleurs, en cours, ont montré les méfaits, hein, de ce produit et d'autres.
Oui, et
je
donc
pense
on
qu'on
est...
peut ajouter aussi que Allez-y, les coûts de production ne sont pas les mêmes aussi quand on parle d'agriculture locale que de l'agriculture ailleurs dans le monde. Entre autres, les salaires peuvent être considérablement différents ici puis ailleurs. Les conditions de travail aussi, je pense que c'est important de le mentionner. Et puis pour ajouter un exemple, mais si on veut un contre-exemple qui favoriserait les prix des aliments locaux lorsqu'ils sont en saison, rappelez-vous, c'était l'hiver passé ou le précédent, je me rappelle plus, ça avait fait les manchettes. Le prix du chou-fleur était importé, évidemment, parce qu'on était en plein hiver et était monté à 8-9 $ et je pense qu'on avait eu aussi pas longtemps après des céleris à 5-6 $ importés hors saison. Donc moi, en achetant directement d'un kiosque à la ferme, d'un maraîcher au marché public, j'ai rarement vu des chou-fleurs à 9 $ Donc ce que ça souligne, c'est que quand on mise sur les aliments locaux en saison et puis qu'on en profite pour en faire des provisions, le chou-fleur, par exemple, ça se congèle super bien. On peut se faire des petits sacs, des petits contenants de chou-fleur qui vient d'un maraîcher qu'on connaît dans sa région. Placez ça au congélateur, puis vous allez avoir les meilleurs potages de chou-fleur rendus à l'hiver à partir d'un chou-fleur produit dans les conditions écologiques que vous voulez, qui provient de près de chez vous, sans avoir importé un chou-fleur des États-Unis. Mais je pense que c'est tout à fait réaliste, possible. Et puis, dans un exemple comme celui-là, c'est pas vrai que c'est nécessairement plus cher. L'hiver, on a aussi accès, puis on le voit avec les paniers d'hiver, tous les légumes, les racines, les choux, les courges, les patates, les carottes, les oignons, ce sont tous des légumes locaux qu'on a accès 12 mois par année. Et c'est pas vrai que c'est des aliments qui coûtent le plus cher de notre panier d'épicerie.
Je vais amener un autre aspect dont vous ne devez pas discuter souvent, peut-être. Le mot patriotisme, dont je me sers à peu près jamais, parce qu'on s'en sert tout le temps, dans tous les pays, pour justifier quand on va aller taper sa gueule à quelqu'un. On prend le patriotisme pour dire, écoutez, les hymnes nationaux d'à peu près tous les pays sont presque tous violents, et c'est toujours brandir l'épée et puis tout ça. Alors que le patriotisme, ça serait peut-être s'occuper du désespoir de nos agriculteurs qui n'arrivent pas à rejoindre les deux bouts, et les encourager aussi. Ça, c'est un bel acte, il me semble, de pas patriotique, mais peut-être de communauté, de penser à notre communauté, que de l'autre côté, il y a des gens qui travaillent fort en maudit, puis qu'on pourrait encourager aussi et qu'on le fait à chaque fois qu'on achète local. Qu'est-ce que vous en pensez?
Là, je crois que vous avez absolument raison. Puis c'est sûrement quelque chose qu'on a ressenti particulièrement avec le confinement, avec la pandémie. C'est d'une part notre vulnérabilité comme société, notre manque de résilience et sur la question alimentaire, entre autres. Mais d'autre part aussi ce qui compte finalement, c'est la relation humaine qu'on a avec nos proches, avec nos familles, avec nos amis, avec nos collègues, mais aussi avec la communauté qui nous entoure. Et c'est certain que les femmes et les hommes qui produisent nos aliments doivent être au cœur de notre communauté et doivent être mieux connus, mieux compris, mieux valorisés. Et je pense vraiment que aujourd'hui, on le voit avec l'intérêt accru à consommer localement, à faire la promotion des produits du Québec. Ça va permettre, en tout cas je l'espère, je le souhaite, que celles et ceux qui produisent les aliments soient mieux valorisés, mieux compris. Et quand vous parliez un peu plus tôt, M. Bigrat, du prix des aliments locaux, je crois qu'il y a une réflexion aussi comme société à faire sur la valeur qu'on veut mettre dans notre alimentation. Il y a quelques décennies, le budget alimentaire, c'était le principal budget familial. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est le loyer évidemment. Mais encore une fois, quand on veut bien s'alimenter, c'est peut-être de prendre en compte la valeur du travail qui a été fait, la valeur de l'appui qu'on donne à notre communauté, à notre province, à notre société, et aussi peut-être découlera de cela des demandes auprès de nos dirigeants pour appuyer la production locale et la mise en marché locale.
Oui, parce que politiquement, on parle beaucoup d'indépendance. Commençons donc, on peut commencer à la faire par s'encourager nous-mêmes, encourager les nôtres aussi. C'est le début de l'indépendance. C'est beau d'en faire un beau projet politique. Je sais qu'il y a des fédéralistes qui écoutent, c'est correct, c'est juste mon opinion à moi, mais si on parle d'indépendance, on pourrait essayer de s'assurer au maximum d'une indépendance alimentaire. On va parler à Jean-Roch au téléphone. Salut Jean-Roch.
Salut Dan. Moi, je n'achète qu'un que les prix sont quand même assez raisonnables.
Oui.
Dans le genre, OK, que je vais prendre l'exemple là, de ton invité qui disait des deux corsos de bleuet puis le corso local.
Oui.
Ben moi, personnellement, j'aurais pris les deux corsos. Pour la simple et bonne raison que j'en aurais eu pour deux tartes. au lieu d'une seule tarte. Et puis, oui. J'aurais économisé de cette façon-là. Okay. Et puis, la dame qui parle, qui est ton autre invité, qui
Madame Aubé.
Madame Aubé, qui dit que c'est bien. Elle dit c'est qu'on peut avoir un chou-fleur, puis le couper, puis le mettre au congélateur. Mais encore là, il faut l'avoir, le congélateur, ou encore, il faut de la place dans le congélateur. Si la personne, elle vit dans un 3,5 puis qu'elle a un petit frigidaire avec un petit congélateur, elle ne sera pas capable de congeler.
C'est certain que toutes les solutions s'adaptent pas à tout le monde. Mais comme on est dans une émission de radio, on essaye de faire le plus possible le tour des sujets et des façons qui conviennent à tout le monde, dont vous.
Je pense que c'est important de partir de sa réalité. Oui, c'est ça. On a tous des réalités différentes, des contextes différents. Et puis, il y a des trucs, des outils, des astuces qui se déclinent selon nos réalités. Là, ça, je suis tout à fait d'accord.
Oui, il y a des solutions qui fonctionnent bien pour l'un et pas pour l'autre. Monsieur Jean-Roch fait un beau compromis, il a trouvé ses solutions. Mais vous avez raison, monsieur, il faut l'adapter à la réalité de tout le monde. Je suis entièrement d'accord. On va aller à Gaston. Salut, Gaston.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très, très, très bien.
Oui. Moi, je travaille pour une compagnie qui vend des semences de jardin à travers le Canada.
Oui.
Et puis, depuis 12 ans, ils nous demandent plus de semences bio. Et on a des semences bio qui sont 50 sous plus chères que des semences ordinaires. Or, le monde ne les a pas achetées. On est obligé de les retirer. Là, j'ai fait une recherche là-dessus. Puis, c'est bien facile. C'est parce qu'au Québec, si tu voulais avoir des produits bio, le gars ferait venir un dosseau de terre bio, il l'éteint, puis il dit, gars, moi, je peux faire pousser des légumes bio. Puis là, sa réglementation, tout le monde est heureux. Mais c'est pas vrai du tout. Sur les 1000 personnes au Québec qui seraient capables d'avoir des légumes bio, s'ils sont analysés correctement, il n'y en aura pas 10 qui vont passer le test. C'est incroyable. Même tout le monde se garoche pour avoir de l'argent. C'est beaucoup plus cher de vendre des légumes bio que de vendre des légumes ordinaires.
Ben, si on parle de gens très, très riches qui font toujours 50 cents de plus, ça me semble une maladie. Mais pour la plupart des gens, tout le monde court après le cash pour essayer de vivre. C'est l'argent est très... le rapport à l'argent est très anxiogène pour tout le monde. Je peux comprendre. Merci, Gaston. Est-ce que j'ai un invité qui peut répondre à ça, Mme Dubé, M. Worms?
Ben, écoutez, oui. Je pense que... Effectivement, aller chercher de la production biologique aujourd'hui a encore un surcoût, mais qui tend à se réduire de plus en plus. Je peux vous donner l'exemple du réseau des fermiers de famille qui vend les paniers. Cette année, on a eu une hausse de 94% des abonnements par rapport à la même période l'an dernier. C'est 21 000 abonnements, c'est 20 000 ménages, 60 000 personnes. Donc, la recherche tout de même de produits biologiques, elle est là. Maintenant, c'est
vrai.
Oui,
mais là, c'est parce qu'on est plus haut dans la chaîne alimentaire. Là, si on parle de semences, on s'adresse directement à l'agriculteur. On ne parle pas au client, là.
Mais là aussi, je crois qu'il y a une sensibilisation de la part des agriculteurs. D'une part, à l'utilisation de semences biologiques, mais pas seulement, parce que quand on parle d'agriculture, c'est 10% de nos émissions de gaz à effet de serre. Une des solutions, c'est de travailler différemment notre sol. Les gaz, ils sont contenus, ils sont emprisonnés dans le sol. Et là, nous, on travaille avec l'Union des producteurs agricoles.
Oui.
Il y a une vraie sensibilité, il y a un vrai travail qui est mené, mais qui ne peut pas se faire, évidemment, du jour au lendemain. Donc, il y a une transition à effectuer. Et vous parliez de fierté nationale et... je crois aussi que quand on parle d'agriculture, on peut lier ça à notre énergie. Donc, comment utiliser davantage notre énergie propre, l'hydroélectricité, pour produire nos aliments? Là aussi, je crois qu'il y a une réflexion qui est entamée, notamment par Hydro-Québec, avec les producteurs.
Je prends une petite pause, puis quand on va revenir, je vais vous demander, parce que je trouve que c'est une mode qui est très, très... Les modes m'emmerdent d'habitude. La bonne nouvelle d'une mode, c'est que ça passe d'habitude. Sauf celle-là, elle, je l'aime beaucoup. Je vais savoir si vous incluez ça dans votre marché. Les légumes laits. Ça, il y a un marché ici, tout de suite après la pause.
Approfondir le sujet de l'heure. Jusqu'à midi. Vous écoutez Dan Bigra.
Alors, je vous rappelle, je suis toujours avec Julie Aubé, qui est porte-parole de la Semaine québécoise des marchés publics. Elle est aussi autrice et nutritionniste. Et je suis avec Ryan Worms, malgré son nom, qui d'après moi est un camouflage. C'est un francophone complet, qui est directeur des programmes en alimentation chez Équiterre, qui est un organisme vraiment, vraiment important pour nous tous. Et je vous laissais avant la pause avec notre histoire de légumelette. Ça m'est venu à l'esprit parce que j'ai des amis dans Lanaudière où j'habite, pas très loin de chez moi. La première année qu'ils ont acheté leur maison, au supermarché, il y avait des poches de 30 kilos de carottes qui étaient destinées aux chevreuils. Alors évidemment, elles sont très, très laites. Sont pas regardables, mais elles sont très, très bonnes. Fait qu'eux autres ont acheté une pomme, ont acheté une poche en entier. Ils ont tout mangé ça la première année. Ils ont fait des soupes, ils ont tout fait. Mais ils sont deux. Je peux vous assurer qu'ils n'ont pas racheté la deuxième année. C'était un petit peu trop, mais ils ont quand même profité d'un deal de légumelettes. Et je sais qu'à un moment donné, ça a commencé à faire le tour des épiceries, ça. Est-ce que vous, vous travaillez avec vos légumelettes ou vous les jetez?
Mais moi, je pense que la beauté, elle est dans la diversité, justement, des formes, des couleurs.
C'est très bien dit, ça.
Et puis, oui, puis vive la diversité, vive la variété. Puis, effectivement, c'est pas parce que la forme est un peu différente. En fait, c'est normal. La nature, elle crée pas les fruits, les légumes, les produits dans un moule. C'est normal qu'il y ait des formes variées.
Non, ça, c'est des usines qui font ça. C'est des usines qui on veut pas nos fruits des usines. On les veut pousser exact. Dans nos terres avec des produits qui ont de l'allure, puis une façon de travailler qui a de l'allure. Alors à ce moment-là, ben effectivement, moi une carotte tout croche, je m'en fous. Ça va finir dans mon assiette pareil. Ou si je fais de la soupe, je vais broyer, je m'en sacre un peu, là. Mais est-ce que vous vous en servez?
C'est vrai qu'une poche de carotte tout seul, ça peut être un peu une quantité trop importante, mais là encore...
Oui, ils ont exagéré, puis ça... Oui.
Est-ce qu'on peut se mettre avec nos voisins ou en famille et puis décider mm-hmm. justement d'aller chercher une plus grande quantité et la partager? C'est aussi un moyen d'avoir des produits locaux et...
Mais c'est le moyen des grosses compagnies, c'est d'acheter avec un grand volume, c'est comme ça qu'ils ont des réductions. On pourrait très bien, vous avez raison, on pourrait très bien l'appliquer mm-hmm. à nous-mêmes.
Tout à l'heure, vous évoquiez que vous aviez eu trop de concombres une certaine année. Vous auriez pu faire du troc avec des carottes.
Oui. J'ai pas été assez vite. Je me suis quasiment empoisonné. C'est parce que les derniers maudits concombres, quand ça fait trop longtemps, ils ont l'air d'avoir poussé à Tchernobyl, à un moment donné. Ils font pas des cornichons avec ça.
Peut-être un petit lien. Je vois oui. l'air qui passe avec le thème qu'on a cette année à la Semaine québécoise des marchés publics, qui est de manger local 12 mois par année. Parce que pour outiller, dans le fond, les personnes à faire des provisions, on a fait 12 capsules vidéo qui sont gratuites, qui sont en écoute sur la page Facebook de l'Association des marchés publics du Québec, où je partage vraiment plein d'inspirations.
Quelle est l'adresse précise de votre page Facebook? Je voudrais la donner au public.
Alors, c'est sur Facebook, c'est de chercher Association des marchés publics du Québec.
Okay.
C'est l'AMPQ, vous allez le trouver en googlant aussi.
AMPQ, fait, là, okay.
AMPQ, Association de marché public du Québec. Et à chaque jour, pendant les 12 jours de la Semaine québécoise, je donne des trucs, des outils, des capsules, mais c'est très, très concret. C'est vraiment le concombre, qu'est-ce qu'on fait avec pour en avoir maintenant et plus tard. Le bleuet, qu'est-ce qu'on fait avec. Le chou-fleur, même des choses qu'on connaît pas qui poussent au Québec, que les maraîchers vont offrir, comme le gingembre, par exemple, ou des raisins de table. Et puis là, on n'est pas dans la haute gastronomie, on est vraiment dans des trucs pratico-pratiques pour célébrer ces aliments-là des maraîchers de chez nous maintenant dans l'assiette et en avoir plus tard dans l'année aussi.
Et simplifier.
Ceux qui ont envie de s'outiller, là. Oui, de s'outiller puis des choses qui sont accessibles puis qui sont. Je trouve que c'est intéressant de réaliser que c'est pas nécessairement compliqué, long et fastidieux de manger local. Ça peut être simple. C'est simplement souvent des réflexes à développer.
Je comprends. Voilà un petit appel tout de suite. On a Jocelyne. Jocelyne?
Oui, allô?
Oui, allô, bonjour. Alors, on a quelques secondes.
C'est
pardon, c'est Martine. Ma recherchiste m'a donné Jocelyne. Je ne suis pas le seul TDAH ici. Je suis content d'être en famille. C'est Martine.
Alors,
OK, oui.
Je vais simplement dire qu'au niveau local, on oublie souvent la transformation alimentaire qui utilise 75% de nos produits maraîchers ici. Et c'est pas toujours possible de manger frais, mais il y a de très bons aliments, de bons légumes, je pense aux choux-fleurs, aux fèves et tout, qui peuvent nous permettre, bon, économiquement parlant, de faire travailler les gens d'ici, mais aussi de manger local et très, très bon parce que nos normes sont très élevées au Québec. Alors, je pense qu'il ne faut pas oublier ce petit côté-là. Ça détonne peut-être un peu avec le maraîcher frais, mais on ne veut pas toujours faire des potages. On veut aussi manger des petites fèves vertes au mois de janvier. Qui
oui, puis on parle de manger local. Je suis obligé, vous avez une petite musique, ça c'est parce que l'émission est finie. Je suis désolé, merci beaucoup Martine Pas-Jocelyne. Merci beaucoup Julie Aubé, qui est porte-parole de la Semaine québécoise des marchés publics et nutritionniste. Merci beaucoup à Ryan Worms, qui est directeur de programme en alimentation chez Équiterre. Vos lumières m'ont été précieuses, messieurs, dames. Prenez soin de vous autres. Je vous souhaite une très belle journée. Et à tout le monde, eh ben, moi, je reviens demain. Prenez soin de vous autres. Bye.